We always thought alien life would come from the stars. But it came from deep beneath the Pacific.
What the hell is going on?
Les podcasts de Doc. Pantaculon.net.
Cette super critique de Dark Keeper, je vais donc attaquer de mon côté une merde sans nom, une bouse, une daube, un truc pur 80s quoi, qui transpire la chemise en satin et qui sent le Patrick Hernandez Born to be Alive quoi, le fascicule tout moche, le truc. Le truc où tout le monde dit « Ah putain, non, tu l'as pas joué !» Et on rigole sous le cap en disant « Le pauvre !» Le truc qui a dû faire arrêter beaucoup de joueurs de l'Appel à Cthulhu, après l'avoir lu et joué. Eh bien, je vais vous le défendre, car aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, je vais tenter l'impossible. Et je vais vous défendre les ombres de Oxotot. Oui, oui, vous avez bien entendu. Ok, je me suis pas attaqué au mystère de Kadath, hein, qui est quand même une merde sans nom, mais là, c'est abyssal. Là, je m'attaque aux ombres de Oxotot, car pour moi, les ombres de Oxodot, pour l'avoir joué deux fois, je crois, au total, a un gros potentiel. Souvent, c'est ce qu'on dit d'un élève qui est complètement nul, mais qu'on ne veut pas faire mal aux parents. On dit « Votre fils est complètement con, mais il a un gros potentiel. Il suffira qu'il se révèle. » Non, les ombres de Oxodot ont été... Les ombres de Oxodot est une... En retirant quelques scénars, une suite de très très bons scénarios. Je dirais même pour certains d'excellents scénarios.
Ah, excuse-moi de couper, je voulais juste te poser une question parce que je crois avoir lu une version, ça va te faire rire, mais une version justement Game Show. Est-ce que c'est bien le morceau où il y a un passage qui fait penser au Dracula de Bram Stoker? Une espèce de vampire, de noble dans son château dans les pays de l'Est hein.
Je crois. Attends, je sais même plus, tu me poses une colle.
Attends, je n'ai pas connaissance de cela.
Je suis pas sûr. Non, je crois pas.
Ok, autant pour moi.
Non, dans les ombres, non. En réalité, dans les ombres, il y a 7 scénarios. Donc, attention, spoiler. Donc, les scénarios, c'est l'ordre hermétique du crépuscule d'argent. Observer le futur. Ah, je suis sur la version V6. Les sorciers de Kanich. Le canyon du diable. Le ver qui marche. Les guetteurs de l'île de Pâques. Et la remontée de Rillier. Le problème de cette campagne, que, comme vous allez pouvoir le voir, on va tout de suite attaquer les scénarios les uns après les autres. Car le gros manque de cette campagne, c'est le lion. En réalité, entre deux scénarios, les joueurs repartent à leurs occupations et tout à coup, un mec qui vient d'hériter d'une maison les contacte. Tout à coup, un mec veut qu'ils enquêtent sur un truc. Bon, moi je l'ai joué à l'époque où il est sorti, donc c'était les années 80, on était moins demandeurs hein, de trucs complexes, genre d'indices compliqués et tout ça, ou de scénarios un peu construits, donc je m'en suis sorti. Mais c'est vrai qu'à posteriori, c'est ce qui manque à cette campagne, c'est que les scénarios s'enchaînent un peu bizarrement.
Parce que c'est important.
Ben voilà, on sait pas trop pourquoi. Il y a des idées, hein. Il y a le grand méchant, Carl Stanford, qui peut tout à fait faire office de lion. Après, il y a d'autres idées, genre, je sais pas, vous mettez 5 PJ au début, et puis il y en a un qui se fait capturer, et puis pendant les scénarios, ils vont essayer de le retrouver. Bon, ça peut juste... Il envoie une photo de l'endroit où il est, comme ça, et ça leur fait un indice, mais bon, c'est tout pourri. En réalité, il y a du travail là-dessus. C'est le mauvais côté, que si on exclut observer le futur, et le ver qui marche, il y a des excellents scénars. Premier en date et premier en chronologie, l'ordre hermétique du crépuscule d'argent. Alors oui, pour vous faire la trame quand même de la campagne, des vilains méchants, blabla, un grand ancien, blabla, destruction du monde, blabla. Voilà, donc ça c'est fait. Donc comme vous vous en doutez, ça s'appelle les ombres de... Voilà, donc vous vous doutez que l'ancien qu'on essaie de faire monter à la fin, c'est... Voilà, blablabla. Bla bla bla. Donc c'est tout pourri. De fait est que, comme pour les masques de Narathotep, si je devais la refaire jouer, je nommerais pas la campagne. je nommerais pas la campagne au début. Pas que les gens se doutent. Donc le premier scénario, c'est l'ordre hermétique du crépuscule d'argent, je crois que ça se passe à Boston. Et là, c'est un très très bon scénar, car pour une fois, au lieu de scruter espèce de secte, vos joueurs vont être amenés à infiltrer un ordre hermétique qui s'est créé en ville, un truc un peu chicos, un peu ésotérique. Ce qui est assez sympa, c'est que chose très rare, c'est de l'infiltration. C'est-à-dire qu'ils vont être dans les locaux des méchants. On ne sait pas trop qui sont les méchants au début, mais voilà. C'est de plein pied, ils vont pouvoir se balader dans la loge, pouf pouf. Bon, il y a des endroits marqués privés ou alors staff only, hein, mais forcément ils vont essayer d'enquêter là-bas. Mais donc voilà. Ça c'est le côté très sympa du scénar, très urbain, avec finalement une confrontation qui est très intéressante car on est tout de suite confronté aux méchants, et à moins qu'on soit un peu neuneux et qu'on n'ait pas les deux hémisphères qui soient connectés, on se doute que ce mec-là il est pas clair, mais ce qui est étonnant c'est qu'on y est confronté dès le début. Et il vient vous parler. Oh, ça me fait plaisir que vous ayez rejoint notre ordre. Vous savez, on est un peu nouveau dans la ville et que des sommités comme vous viennent contribuer. Et donc on est là, on met une petite toche de couleur selon notre niveau dans l'ordre et tout, et on vient en réunion. Donc il y a un côté hyper stabilisant, je trouve, parce que les joueurs sont de plein pied dans la secte. Genre, c'est pas je vais essayer de rentrer ou machin, je vais essayer de regarder ce qui se passe. Et non, vas-y, rentre dedans, Maurice. Alors, il va peut-être falloir aider des joueurs qui sont un peu trop réticents et qui ont un peu trop joué. Moi, comme c'était le début de la Paléo-Toulou, c'était assez facile parce que les gens n'étaient pas trop habitués. Et donc, ça avait très très bien marché. Donc, forcément, ce n'est pas juste un ordre hermétique d'amateurs de Calva et de cigares cubains, hein, forcément. Il y a plusieurs grades et des grades qui sont plus hauts, les grades qui sont un peu au top peuvent amener à des choses un peu particulières. On ne fait pas que récolter de l'argent pour les petits lépreux ou des choses comme ça. Et donc il y a deux gros méchants. Et forcément le scénar, c'est le but de ce scénar là, ça va être un peu de démanteler, de découvrir ce qui se trame dans cet ordre, et donc de mettre à jour le gros méchant qui peut être tout à fait le fil conducteur de cette campagne, qui vous mène vers le deuxième scénario qui est assez pourri, il faut l'avouer. D'ailleurs il a fait partie de ceux que je trouve un peu difficile, c'est en fait le principe, c'est une nouvelle secte. Alors, voilà, dans un autre endroit, soit c'est à New York, et leur truc c'est que se balade dans le futur. Et alors là, c'est le problème, c'est qu'ils ramènent des trucs du futur. Donc, vous allez vous retrouver dans un scénario où les objets magiques, ce sont des poêles, des friteuses, des micro-ondes, des télévisions, des choses comme ça. Donc, peut-être que vous êtes fan de Doctor Who, je sais pas, ou un truc un peu bizarre, mais moi, je sais que ça a jamais pris. Surtout que c'est un peu basé sur la même chose que l'ordre hermétique, c'est-à-dire qu'on va... On va essayer d'infiltrer un ordre, mais là voilà, l'ordre fait venir des trucs du futur. C'est un peu tout chelou, et on se retrouve avec des armes du futur et tout, ça devient un peu groupie, enfin bon, pas terrible. Par contre, ça se poursuit sur les sorciers de Caniche. Je sais, vous voyez, pour vous dire, je sais même plus trop pourquoi on va c'est en Écosse, je crois. Et ce scénario-là est un classique quotidien, avec... dégénérés débiles au fin fond de la campagne qui mangent leurs excréments et de temps en temps pour le dimanche mangent des bouts d'humains, je crois. Donc pas forcément génial. Je crois qu'on y croise quand même un deuxième méchant, une femme, je sais plus comment elle s'appelle, mais qui est pas mal, qui est assez méchante et qui a aussi tendance à se barrer à la fin du scénar. Ça aussi, hein, je vous le cache pas, c'est très années 80, le coup du méchant, genre je reviendrai. L'intérêt, c'est de le faire de façon intelligente. En 2014, on sait comment faire disparaître un méchant. On attaque le quatrième scénar qui s'appelle le Canon du Diable, où là, c'est... J'adore ce scénario-là. Franchement, c'est... Vous êtes sur le tournage d'un film qui se passe, je crois, au Nouveau-Mexique. Alors, je ne vous raconte pas encore la même chose, comment vous arrivez là. Je ne sais plus si vous êtes conseiller technique ou un truc comme ça. Mais alors là, c'est un super scénar, car vous êtes sur un lieu de tournage avec des acteurs super chiants, plein de PNJ qui se prennent la tête, et tous les vedettes, le mec qui veut pas travailler parce qu'il fait chaud et tout. Et sur ce fond-là, il y a parmi les meilleurs monstres que j'ai vu à la Paléo-Toulou, qui s'appelle le Chasseur Spectral. Et ça vous fait une scène, mais j'en ai encore des frissons, rien d'en parler, absolument démente, des titanesques, je sais pas d'où elles sortent, je m'en fous. C'est que on ne peut les voir qu'à travers des verres spéciaux. Et le fait est que le type des
caméra sur le tournage va réussir pendant le scénar à faire donc ces fameux verres, sinon on les voit pas, ils sont complètement invisibles. Donc il tire un mec en deux et vous voyez que le mec se fait découper en deux mais vous voyez rien d'autre. Donc ils sont imbutables, sauf si vous avez ce verre là. Et alors bien sûr le côté génial, quand je l'ai joué ça a fonctionné mais de folie, c'est que vous filez genre un verre à deux investigateurs, si vous avez une équipe de 4. Mais imaginez le truc. Vous avez 4 investigateurs hystériques dans un décor de film avec des trucs, des faux décors, des faux rochers, une fausse hacienda et tout ça. Et là, vous avez 2 mecs qui, si vous faites les choses un peu bien, ne peuvent pas le tenir que d'une main, mais sont obligés de le tenir avec les 2 mains, sinon c'est un peu risqué. Donc que 2 personnes qui voient les chasseurs attaquer, ils se déplacent très très vite, pas à la vitesse de la lumière, mais très très vite, pendant que les autres tiennent les armes. Imaginez la scène de fin du scénar, mais qui a explosé de 1 de rire et 2 de trouille pour les investigateurs. Parce que le mec, il y a le mec qui a la lumière, qui peut voir le monstre donc à travers le prisme, qui dit derrière toi. Donc le mec se retourne, tire dans le vide, parce que forcément il ne voit pas. Donc les fumbles, les mecs qui se shootent les uns les autres, les hurlements hystériques. Donne une pure scène, en plus vous mettez là-dessus les acteurs avec la nana qui est tombée amoureuse du metteur en scène, machin, qui fait une crise de nerfs, machin, enfin, franchement ce scénario-là est assez génial, assez dangereux, parce que comme les monstres sont invisibles, je ne vous cache pas que c'est pas coton, mais, enfin, la première fois que je l'avais fait jouer, en plus j'étais encore méchant à cette époque-là, j'avais donné juste une lunette dans les de 4 ou 5 joueurs, donc il y avait juste une seule personne qui pouvait les voir. Et forcément, je l'avais donné au mec qui était le plus hystérique et le mec qui avait moins d'extérité, donc il avait fini, je crois, par casser le truc. Et enfin, voilà, c'était carrément parti en cacahuète. Mais l'idée de ce scénario-là, vous voyez, hors campagne, hein, c'est le problème de cette campagne, mais hors campagne, ce scénario-là est excellent. La chaleur, tout ça, enfin, vous pouvez vous faire une pure ambiance. Ensuite, on attaque le verre qui marche. Or, ça, c'est un peu complètement con comme scénar, on sait pas trop d'où ça sort. Enfin, là aussi, ils vont faire une croisière, mais alors, c'est pas du tout comme une autre affût liqueur d'algue. À la limite, vous pourriez caser une autre affût liqueur d'algue, ça serait un peu difficile, mais vous pourriez le mettre là. Là, ils vont sur un bateau, ils se font attaquer par des doles géantes dans la flotte. On sait pas trop pourquoi, mais voilà, c'est pouf, c'est censé être un interlude pour qu'ils se reposent, genre des vacances. C'est un peu complètement con. Et on termine par les 2 excellents scénars. Très très dangereux. Les guetteurs de l'île de Pâques et la remontée de Rillier. Donc comme vous vous doutez, le dernier scénar, ça va être un peu touchy. Et les guetteurs de l'île de Pâques est très très sympa. C'est un scénario très aventure, qui demande pas mal de subtilité parce qu'on est quand même assez proche du Pacifique, hein, faut pas se le cacher. Donc assez proche de là où Cthulhu fait ronflette. Et que à l'époque du scénar, il n'a plus trop d'exomile, donc il va pas tarder à se réveiller. Il est plutôt en mode Red Bull. Donc les guetteurs de l'île de Pâques, je ne sais plus sur quoi ils enquêtent précisément. Je vais vérifier. Vous l'avez pas joué cette campagne-là, aucun de vous deux?
Non.
Non, je ne pense pas.
Un mal imaginable attend l'accomplissement des efforts du crépuscule d'Arafat. Ouais, c'est ça. Il y a pas mal de monstres. Il y a tout ce qui est. C'est vrai qu'il y a une. Pas mal une bonne connotation comme ils mettent dans le scénar, dans la visite, l'interaction avec les personnes du cru. Et surtout, le point culminant de cette campagne, c'est le 7e scénar, la remontée de Rillier, où alors là, bon bah, je veux dire, c'est que des fois, il faut se laisser aller à ses petits plaisirs, quoi. Toujours tout maître de la paix Cthulhu doit avoir au moins sorti une fois Cthulhu, hein, avec une attaque, une montagne qui se déplace, hein, le truc impossible, ou le truc où les joueurs se disent, je veux mourir, eh ben là ça vous permet de faire remonter Rillier. Oui, non, c'est pas un euphémisme. C'est Rillier qui remonte. Alors, je vous conseille de pas le jouer comme moi je l'avais joué dans les années 80, parce que c'est clairement mis dans le scénario. La personne qui a mon pouvoir va mourir sans rien faire, pouf. Parce que comme l'architecture est totalement changeante à n'importe quel instant. Il peut y avoir un bâtiment là où il n'y en avait pas juste avant, et inversement. Et donc le mec est le moins au pouvoir. Je me rappelle, je pense pas qu'il écoute les podcasts, parce que ça fait un moment qu'il fait plus de jeu de rôle, mais je pense qu'il se souvient encore de son personnage que j'avais fait disparaître dans un morceau de mur, où il restait plus qu'une main ensanglantée qui est tombée sur le reste du bras et du corps. Ça c'est complètement con, mais si vous enlevez ce côté, ces deux trois petits trucs on-off des années 80. Franchement, se balader dans Relier, relisez l'appel de Cthulhu, la nouvelle, là. Je crois que c'est celle-là. Hein. Ouais, c'est ça. Alors, ok, va falloir faire du Michael Bay. Hein. Va falloir sortir les effets spéciaux. Va falloir que ça crache. Parce qu'il va falloir quand même décrire que des trucs qui sortent du spectre, des couleurs qui sortent du spectre, de la géométrie non euclidienne. Donc, on va galérer, hein, d'accord. Il va falloir rester très vague. Faut rien décrire, mais décrire bizarrement. Enfin, franchement, rien que pour le premier scénario, le canon du diable, bon, les sorties de Canuniche, moins, mais et les deux derniers scénars, vous arrivez à faire un lien dans cette campagne. Je me demande s'il n'y a pas des forums avec des gens intelligents, genre Cassius Snow, hein, bien sûr, où il y a les grands penseurs du monde rôliste, ou alors sur Radio Rôliste, ou alors sur Antonio B, ou des trucs comme ça. Je suis sûr qu'il y en a. Il y en a qui sont intelligents quand même, mais je suis sûr qu'il y en a qui ont trouvé des lions pour faire les ombres. Vous trouvez un lion, ça peut faire une super super campagne. Parce que le premier scénar, c'est purement urbain avec une secte infiltrée. Le diable, c'est complètement novateur, tournage de film, machin et tout, avec des créatures carrément monstrueuses. C'est Kanich, c'est un classique. Et la fin, c'est quand même la remontée de Relier. Donc très honnêtement, il y a des super scénars. Donc j'ai un peu regardé, mais pour la version V6, j'ai pas l'impression qu'ils aient créé un lien entre les scénars. Je relirai un petit peu, mais j'ai pas l'impression. Donc voilà. Si moi je devais me noter, je dirais que sans lien, je mettrais 2, parce que c'est bizarre pour une campagne. Par contre, avec un bon lien, franchement, c'est une campagne qui vaut au minimum 4, parce que c'est. Enfin, vous avez de quoi faire vraiment des super scénars. Alors, oui, donc elle est disponible en V6, ça je l'ai dit. Elle fait combien de pages? Elle fait 168 pages. Donc, avec les illustrations, 200 détours et tout ça, donc voilà. Enfin, une bonne grosse campagne. Les illustrations sont assez étranges. C'est. Michel, je sais plus comment il s'appelle, mais. Je suis pas fan. C'est assez bizarre, on va dire naïf, je sais pas trop. Autant il fait bien le tronche des gens, autant je trouve qu'il y a les grands formats. D'ailleurs, il a fait que ce supplément-là, autant les demi-pages ou les pages entières sont, je trouve, vraiment pas terribles. Donc voilà, c'est. Je dirais qu'il y a. Vous avez de la bonne glaise. Après. On vous fournit pas le tour pour faire tourner la glaise et les monter le vase. Donc vous avez juste la glaise. Si vous restez comme ça, ça va faire un gros tas de merde. Non, je veux dire, ça va pas faire comme dans Ghost, hein, ça va pas faire un beau vase. Et vous n'allez pas prendre votre pied comme quand il se tape machine demi-mour. Donc non, il faut vraiment le bosser, mais il y a un gros potentiel. Voilà ce que je dirais sur les hommes de Oxotot. Donc même chose, comme tu disais, Dark Keeper, si vous le faites offrir, vous pouvez faire quelque chose de sympa. C'est pas forcément à acheter, à moins que vous ayez une pure idée. Mais voilà. Avez-vous des questions, des remarques ou autres, messieurs? Alors, facile, hein, parce que je me suis poignardé moi-même.
Oui, bien sûr, mais bon, quelques remarques, autant que... Même si les gens n'achètent pas la critique, autant que ça qu'on puisse donner nos éventuels conseils là-dessus. Typiquement, faire venir des objets du futur qui en fait sont des objets de notre époque à nous en tant que joueurs, c'est un piège à con, faut éviter. Hein. Bah, voilà. Concrètement, ça fait rien d'autre que de ruiner l'ambiance de votre scénar, et concrètement, ça fait rire les joueurs, quoi.
Exactement.
Parce que je reprends un scénario que j'avais fait jouer, qui était l'horreur de Kingsbury. Dans l'horreur de Kingsbury, il y a des déformations temporelles, et il y a plusieurs exemples qui sont donnés. Le journal fantôme du passé, donc c'est un journal qui est paru après le présent, ça c'était génial. Le ciel futuriste avec une sorte d'aéroplane sans hélice, on a bien compris que c'était un 747. Ça, ça marche pas du tout.
C'est pas terrible.
C'est pas terrible du tout.
C'est assez délicat et puis on tombe très vite. Enfin, moi je me rappelle que mes joueurs ils se marraient parce que c'était l'époque où il y avait Retour vers le futur, quoi. Et donc ils étaient morts de rire à chaque fois, ils m'appelaient Marty McFly, quoi.
Mais ok, en plus. Après, elle s'appelle comment la campagne?
Les ombres de Yoxotot, oui, je sais.
De Yoxotot. Et ouais. Nous ont fait monter Rylet. Ouais, il y a un gros problème, je pense.
Bah ouais.
Et je...
Exact.
Je pense qu'ils sont... Enfin, je sais pas trop comment ils ont fait cette campagne. Je pense que... Je pense qu'ils ont écrit des scénarios chacun de leur côté, parce que ce sont des auteurs à chaque fois différents.
Ah oui, ok.
Et je pense qu'ils ont mis tout dans le même sac, et puis ils sortaient des masques de Natotep, et puis ils se sont dit, bon, les masques de Natotep, ok, on va appeler ça les... Et c'est vrai que c'est assez étrange, je suis d'accord.
Ouais, là encore, ça montre encore l'importance du nom pour un scénario ou une campagne. Bon, après, ça peut avoir son effet surprise. Vous vous attendiez à Yoxotot. Et bah non,
c'était exactement ça. Mes joueurs, à la fin, ils ont fait, mais au fait, mais pourquoi ça s'appelait comme ça? Eh bien, je ne sais pas.
Mais bon, encore, si tu m'avais dit les ombres de Cthulhu et en fait, c'est Nyarlathotep, ça peut se comprendre. Tu vois. Bon,
non, je sais pas, t'es terreur dans le Pacifique. Ou un truc comme ça.
Mais bon, voilà, là, clairement. Si c'était un recueil de scénarios différents, fallait pas donner un nom qui essayait d'englober tout. Moi j'aurais dit, pérégrination du mythe ou une sorte de un truc comme ça. Mais
après, voilà, le mythe autour du monde. Enfin un truc
comme ça, un truc assez générique quoi, qui englobe tout.
Clairement, c'est une odeur de sous masque, tu vois. C'est une odeur de masque un peu série B quoi. Genre ils ont vu que les masques ça avait bien marché. Je sais plus dans l'ordre. Je crois que c'est les masques d'abord et après les ombres. Mais si c'est l'inverse, c'est con, mais voilà, ça fait un peu sous masque. C'est-à-dire que on a des scénars, on a des bonnes idées. C'est vraiment des bonnes idées, mais ça tient pas. De ton côté, Prince Mark, qu'en penses-tu? Des questions, des remarques?
Sur les monstres, là, ça m'intrigue un peu. Là, il n'y a pas un peu beaucoup de monstres là.
Ah si, c'est hyper dangereux. Autant le premier scénar ça va, autant à partir du moment où t'as le verre qui marche avec les dolls et tout, enfin il y a quand même des dolls qui attaquent un bateau quoi, je veux dire pour s'en sortir bonjour.
Ouais, ouais,
le canyon du diable avec les chasseurs spectraux c'est vachement dur mais c'est bien fait, c'est à dire que t'as pas l'impression que, comme on dit toujours, c'est une nécropole qui tombe sur le coin de la tête, c'est à dire que c'est, t'as l'impression d'avoir ton destin en main, bon tu vas dérouiller ta race mais... Et puis en plus, l'intérêt avec le canyon du diable, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de PNJ, donc il y a beaucoup de viande. Donc tu n'es pas obligé de te faire les investigateurs. Tu peux décimer une équipe entière de ton âge.
Ouais. Alors, mêler plusieurs pans du monde comme ça, je trouve ça aussi un peu bien casse-gueule. Hein. La majorité des campagnes que j'ai vues qui faisaient ça, en général, ça tournait au gros pulp, à base de Astur et Cthulhu qui se foutent sur la gueule, enfin...
Alors
ouais,
c'est
ouais, on... le mauvais pulp. Hein.
On est d'accord, le mauvais pulp.
C'est oui, mais je reste sur l'idée que pour si vous avez d'autres remarques ou des questions, allez-y. Moi je sais ça laisse sans voix hein, que je défends des ombres, mais
c'est... ouais non mais...
parce que enfin. Après, ça serait des grosses ficelles, mais que Carl Stanford se retrouve finalement sur chacun des scénars, ça pourrait être intéressant. Après, il faudrait réussir à le mettre dans cette caniche, je crois qu'il y est, mais vaguement, et surtout réussir à le mettre au tournage du film.
Et comment est faite la description de Rylet?
Alors, attends que je réouvre le truc. Je crois que c'est un peu galère. Qu'est-ce qu'ils mettent? Affronter le futur. En plus, à chaque fois, ça me fait penser à X-Files. Files de Future. Alors, ça, c'est toutes les deux jeux. Putain, il y a deux jeux, quoi. Ah oui, parce qu'en plus, il y a deux scénarios additionnels. Mais je vous les ai même pas décrits, parce que... Scénario additionnel et une campagne, on comprend, là. C'est la fin, les investigateurs font route vers l'île de Relire et ça... Avouer d'empêcher le réveil du grand Cthulhu. Oui, parce qu'ils vont voir Cthulhu, hein. Enfin, je vous rappelle que Cthulhu, à l'époque, c'était un dessin de santé mentale que vous perdez si vous avez... Raté votre G.
C'est une époque.
Ouais, c'est une époque.
Donc, l'île est une horrible montagne noire et visqueuse émergeant de pouf. Ouais. Premièrement, les gigantesques sont visibles en dessous des
eaux. Sinon, moi j'ai une autre question, vu que. Enfin, j'ai peur
de. Pas terrible, quoi. C'est pas terrible la description.
J'ai une autre question, sinon.
Ouais.
D'abord, j'ai peur d'avoir la réponse déjà, mais vu qu'il n'y a pas de lien, comme tu disais, j'imagine qu'il n'y a pas de conseil non plus pour réintroduire les persos, vu que ça a l'air un peu bourrin.
Ben non.
Ah, ouais.
Alors, il y a quand même un paragraphe où on dit « Les personnages qui tentent de combattre Cthulhu devraient être mutilés et annihilés. » Donc en plus, ça a été peut-être retraduit, mais c'est pas terrible. « Même le signe des anciens tant loué est impuissant contre un tel être. » C'est vrai que c'est un peu boucherie, quoi. Par contre, s'ils s'en sortent...
poissonnerie, si ça me permet.
Oui.
Par contre, c'est vrai que... Qu'est-ce qu'ils mettent comment combattre les adorateurs... Le pseudo-fond qu'ils mettent, c'est qu'à chaque fois, les méchants sont censés appartenir au crépuscule d'argent. Que vous avez vu début, quoi. Où vous vous dites, bon, bah si je les démantelé, normalement, il ne devrait plus y avoir de soucis. Mais...
Cette idée d'apparaître dans le culte était vraiment sympathique. Ça me fait penser un peu au gang de bikers où en fait seuls les plus élevés connaissent vraiment tout ce qui est trafic d'armes et autres. Les autres, ce sont que des petits prospects. Mais ça n'a rien à faire avec ça.
Ça c'est sympa et puis c'est très inspiré de la nouvelle, comment ça s'appelle, avec les mecs. Enfin, le sortilège qui permet à partir de pierres de reformer des êtres. Je sais plus comment ça s'appelle. Tiré d'une nouvelle. Et ce scénario-là est très sympa parce que dans les fins fonds de la loge du crépuscule, il y a des trucs absolument horribles. Et celui-là est vraiment très sympa. Et, si je regarde un peu les pitchs des différents scénarios, voilà. Par exemple, voilà, le verre qui marche. Cédés par les actes perpétrés à leur rencontre, les seigneurs, on sait pas trop pourquoi ils appellent ça comme ça, avec un grand S, décident de contre-attaquer un mico de leurs alliés déguisé en érudit, attire les investigateurs dans le Maine en se faisant passer pour un allié potentiel.
Mmh. Seigneur avec un A ou avec un E?
Non, avec un E comme ils ont posé, mais avec un grand S, je sais pas trop pourquoi. Non, c'est con, hein. C'est con parce que voilà, le premier scénario, ils mettent lorsqu'une nouvelle loge ésotérique s'installe à Boston, des investigateurs décident d'y jeter un œil afin de tirer au clair les étranges rumeurs qui l'ont. Après avoir infiltré ses rangs, ils découvrent que leur droit c'est des degrés secrets, aucun desquels les membres adorent des dieux étranges et oubliés. L'intérêt, tu vois, dans ce scénario-là, rien que pour lui, c'est intéressant parce que il va falloir quand même qu'il fasse des trucs un peu limites pour monter dans l'ordre. Ils veulent être au courant des secrets, il faut qu'ils soient. Une grade assez élevée, c'est assez sympa et un peu tendancieux. Mais voilà quoi, je suis d'accord, derrière, c'est... ça tient pas non plus des masses. C'est-à-dire que ça tient pas des masses pour une campagne. C'est ça qui est dommage.
Qu'est-ce que tu appelles tendancieux concrètement? Il y a quoi dedans?
Dans les différents rites?
Ouais.
On va commencer à faire boire des trucs un peu bizarres, on va commencer à faire venir des jeunes femmes un peu. On verra pas plus tard, ou alors des choses comme ça, ou...
D'accord. Parce que, pareil, mélanger le mythe et le sexe, c'est toujours... C'est un mélange très particulier à faire, et à mon goût, l'une des divinités les plus dures à utiliser, c'est sans conteste Igolonac, quoi.
Oui, je suis d'accord. Bon, encore que, quand tu regardes les... Après ça, on aime ou on n'aime pas, mais From Beyond, le film, est pas mal. Il y a un côté un peu sadomaso, enfin...
Je crois que je vois le passage auquel tu fais.
Bon, perso, je n'ai pas chez moi de menottes et de choses accrochées au mur, mais voilà quoi, c'est... Non, l'art dramatique, non, c'est pas orienté comme ça trop au cul. Plus de dire, pour le prochain stade dans l'ordre, qu'est-ce qu'ils vont me demander, d'anticiper le truc, quoi. Tu sais, tu discutes avec d'autres, ils te font « Ah ouais, j'ai eu beaucoup de mal à rentrer, vous savez... John, lui, il est jamais rentré. D'ailleurs, il a quitté l'ordre. Je crois qu'il va pas très bien. Tu peux faire pas mal de... C'est pas mal plein de choses. Ça peut être sympa, quoi.
D'accord.
Et monsieur... Ouais, voilà. Ils mettent les liens sélectionnés. Ils mettent les liens vers les autres scénarios. Mais voilà, c'est pas génial. C'est pas tellement cross scénario, quoi. Rien que le premier scénario, je crois qu'il y a des indices. Pas force, ça mène pas vers grand chose d'autre que le. Ça qui est un peu dommage. Donc voilà, je vais être obligé de passer finalement au plus dur. Vos notes. Dark Keeper, de 1 à 5.
Alors, je dirais. concrète. Je dirais 2 sur 5. Parce qu'il y a pas mal de bonnes... On ressent qu'il y a des mecs qui ont trouvé des bons petits concepts, mais là où il aurait dû être un recueil de scénarios à part, cette volonté d'en faire une campagne, c'était pas terrible. Clairement, 2 sur 5 aussi, par le fait que ça s'appelle Les Ombres de Yoxotot et on voit que tout le monde qui débarque à la fin, tu te dis c'est une blague, non mais c'est pas permis quoi. C'est genre le truc, tu le fais jouer, tu donnes pas le nom de la campagne tellement t'as honte. Mais sinon, et puis l'autre truc qui me choque aussi, c'est non mais des dolls qui attaquent un bateau quoi.
Ah oui, alors attendez, j'oublie de vous dire pour clore le spectacle, c'est que pour s'en sortir, en réalité, il y a une option, c'est un peu comme les mystérieuses cités d'or, c'est-à-dire qu'il faut reconstituer une espèce de médaillon géant pour fermer la porte. Voilà, c'était ma dernière note, mais en effet, bonne note, deux. Et de ton côté, Prince Noir, tu mets combien ?
Alors, moi déjà, ma première question, c'est est-ce que 1 est le minimum ? Est-ce qu'on peut mettre moins ?
tu peux mettre des notes séparées pour les scénarios.
Non, je mets le minimum parce qu'il y a deux choses déjà qui me gênent. L'absence de lien, parce que pour moi, c'est très important pour faire le lien entre chaque scénario, tout ça. C'est difficile de travailler pour faire une relation entre chaque scénario dans une campagne. Enfin, ça n'a plus rien d'une campagne, quoi. Sinon, tu prends n'importe quel scénario, si tu n'arrives pas à les lier. Et c'est le problème de base qu'on a quand on cherche à relier tous les différents scénarios qu'on veut jouer. Donc pour moi c'est la base quoi, une campagne, sinon c'est pas une campagne. S'il n'y a pas de lien pour passer d'une étape à une autre.
Bah pour te dire, le troisième scénario, ça commence par ça. Contacté par un certain Jacob Hancock, les investigateurs vont devoir se rendre en Écosse pour enquêter sur la disparition de son oncle Henry. Drame, machin et tout ça, voilà. Donc aucun lien avec le reste.
C'est ça.
Et
c'est...
puis les monstres, il y a trop de monstres. Pour moi, c'est trop. Ça a l'air trop bourrin. Trop old school et pas dans le bon sens du terme.
Pourtant, j'avais beaucoup misé sur cette défense. Bon, c'est pas grave, je continuerai. Non, mais c'est vrai, faut lier les scénars, en virer certains, diminuer la mortalité. Et c'est vrai que, bon, quand t'achètes une campagne, je sais pas combien elle vaut celle-là, mais quand t'achètes une campagne.
Elle vaut trop cher déjà.
Un truc à même à 30 euros, c'est vrai que ça fait un peu cher parce que c'était vachement de boulot. Bon. Bon, ben messieurs, sur ces bonnes paroles, il est quelle heure ?
Hein, il y a Fox. Minuit et 20.
Oh putain, ouais, quand même. Ben écoutez, je vais vous remercier beaucoup. On a quand même tenté de défendre Dark Keeper et moi des choses difficilement défendables.
Bon, c'est clair.
Bon, j'avoue, j'ai choisi une difficulté qui était un petit peu insurmontable. Alors que toi, tu t'en es bien sorti, Dark Keeper, malgré nos remarques sur le système. Car voilà, le recueil en lui-même valait le coup.
C'est vrai que bon, le débat fut un peu enflammé, mais je suppose que. Le système et le setting de campagne, c'est deux choses qu'on peut facilement séparer.
Et puis je te dirais, pour être honnête, on ne parle pas et on ne s'enflamme pas sur les choses qui nous intéressent pas. Moi le premier.
Oui, aussi, oui.
Voilà, ouais.
et très honnêtement, Trail of Cthulhu, moi j'y avais mis énormément du système Gumshoe. Parce que justement, c'était une des premières fois où on nous offrait une alternative.
Oui,
c'est peut-être un mélange de déception, de trop d'attentes qui a fait ça. Mais je peux t'assurer que j'ai même fait, avant que je me frite avec le 7ème cercle, j'ai même fait un scénario de démonstration à la Gen Con de Trail of Cthulhu. Un scénar, je sais plus lequel c'était. C'était un truc qui se passe sur une île avec un avion qui s'est crashé, un truc comme ça. Où c'était très sympa. Donc non. Mais donc voilà, trois campagnes, bon, Yod et puis Londres, c'était quand même un peu du caviar à défendre parce qu'il y a vraiment un bon fond. Les Ombres, bon, d'accord, mais le fait est que voilà, c'est encore
c'est un
trois...
peu différent aussi, c'est un cadre de campagne, c'est pas juste
oui,
une suite de scénario.
J'ai dû parler énormément du bouquin parce que contrairement à une campagne où tu peux facilement... où t'as en gros t'as juste la trame et ce qu'au final ce que tu vas commenter sur une campagne c'est beaucoup de l'expérience de jeu derrière plutôt que la campagne en elle-même ou l'écriture. Là j'ai vraiment besoin de parler du contenu quoi parce que
c'était le même intérêt qu'il y a eu quand Desprite nous a parlé de l'affaire Armitage, je trouve. C'est un concept à découvrir, c'est des nouvelles idées, c'est des questions.
Puis, heureusement que je sais pas moi qui l'ai défendu, l'affaire Armitage, parce que je peux vous dire que le pauvre Desperate, quand j'ai à la fin du podcast, j'avais envie de lui sauter dessus, j'ai pondu un pavé sur le topic, enfin bref.
C'est vrai?
Ah oui, je sais pas si vous avez lu, mais oui, j'ai pondu un pavé sur l'affaire Armitage.
Mais c'est parce que pour résumer, t'avais trouvé que sa défense était pas...
Elle était sympa, mais...
Il a révélé des choses?
Je critique pas des Sparite, hein. Sa défense était tout à fait pertinente, mais à mon goût...
Ici, vas-y, il est pas là pour dire.
Non, je ne critique pas les gens qui ne sont pas là, mais... Enfin, si, parce que maintenant qu'on a lancé le sujet, mais effectivement, il était passé à côté du
ah, par contre, gros, quoi. Enfin, par contre, attention, tu l'as fait jouer, toi?
Oui, je l'ai fait jouer.
Ah, voilà, grosse différence.
Lui, ah, d'accord, ok.
Lui, non, attention, alors... Ça n'empêche pas tes arguments, mais lui, voilà, lui, forum,
c'est un complément d'expérience qu'il
a. Tout à fait, mais c'est vrai que c'est ce qu'il nous avait dit. Il nous avait dit qu'il l'avait lu, mais qu'il ne l'avait pas pratiqué encore avec ses joueurs. Et justement,
il a été honnête sur ça. Hein.
Ouais, il était assez avide, justement, de retour d'expérience, donc je pense que ça s'est complété avec tes retours, il n'y avait aucun souci. Mais charger un peu des sprites, ça fait du bien, même quand il n'est pas là. Non, par contre, parce que... Faut lui mettre un peu la pression parce qu'il viendra défendre quand même Terreur sur Antexpress. Enfin, personnellement, moi je suis.
Ah, ça va être bon, ça va être bon.
Moi j'adore cette campagne, personnellement, mais après, je comprends qu'il y ait plein de gens qui la trouvent linéaire, mais on verra. Bon, messieurs, eh ben, écoute, Dark Keeper, déjà je te remercie beaucoup pour ta participation, c'est très sympa. Mais comme je le dis à tous, Toc, c'est ouvert à tout le monde, donc si tu veux revenir une fois où il y a un podcast ou même revenir à chacun, il n'y a aucun souci, on t'accueille avec grand plaisir.
C'est un plaisir d'être venu aussi.
Ben, Prince Noir, il n'y a pas de souci. Prince Noir, t'as toujours un mauvais fond, donc on te garde. Et puis, t'es le seul qui est à peu près de mon côté sur le site, donc il faut absolument que je te garde. Sinon, je serai tout seul. D'ailleurs, un des prochains podcasts, ça risque d'être intéressant. On ne fera pas trop polémique, mais il y en aura un petit peu. Ça sera avec les gens de Radio Rollist. Avec Cobal, qui est au demeurant très très sympa, que j'ai très souvent rencontré en convention et qui est quelqu'un d'absolument charmant. Mais voilà, eux ils défendent des trucs indéfendables, genre des trucs que personne n'achètera. Donc
j'aime bien.
Oui, moi aussi j'aime bien ce qu'ils font.
Voilà, bah, vous voyez comme quoi il y a des avis partagés, moi ça me saoule. Mais Cobal est quelqu'un de très sympa et tout ça, mais enfin, les entendre rôter après avoir bu des pina coladas et bouffé de la pizza, ça m'intéresse pas. mais c'est personnel.
Ah, moi je dis quelqu'un qui boit ne peut pas avoir mauvais fond.
Voilà, en plus je ferais mieux fermer ma gueule vu que vous m'avez entendu me verser ma petite limonade.
Voilà, en plus. Les masques.
Remarque, pas ça ne vous a pas démonté pour autant. Hein.
Non, mais je bois pas d'alcool. Hein. C'était de la grenadine de chez
Dessert. On dit ça, on dit ça.
Bah, messieurs, je vous remercie beaucoup. Et puis, je vous dis, de toute façon, on se reverra sur Talk et puis peut-être un prochain podcast.
Oui.
Et sur ces bonnes paroles, Fungloui.
Fungloui.
Et je coupe CTRL-SHIFT. L'enregistrement. Top record.